VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manelakiza avec vous pour vous présenter ce journal. Au Nigeria, 9 personnes ont été tuées et 9 autres blessées dans l'attaque par des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram de 2 villages du nord-est du pays. D'après une milice anti-djihadiste, des militants venus en camionnette ont attaqué les localités de Kalari, Abdiye et Amawa, à une 20aine de kilomètres de la capitale de l'état de Borno, Maïdougouri. C'était hier soir. Le Burkina Faso a interdit dans l'est de son territoire la circulation nocturne des engins à 2 et 3 roues dans cette zone. Le gouverneur de la région, le colonel Ousmane Traoré, a aussi annoncé que les véhicules automobiles de transport de personnes ou de marchandises qui sont autorisés à circuler sur l'ensemble du réseau routier de la région à toutes les heures de la journée ou de la nuit seront soumis à des contrôles stricts et rigoureux. Le pays est en proie à des attaques djihadistes récurrentes dans cette partie du pays. Au Niger, le ministère de la Santé a ordonné hier la fermeture de plusieurs centrales pharmaceutiques privées de Niamey, notamment pour des médicaments douteux ou périmés. Nanit Talani.
Cette mesure de fermeture immédiate vise 6 centrales pharmaceutiques des sociétés grossistes, notamment pour absence de contrôle de qualité des médicaments avant leur mise en vente, absence de destruction de produits périmés ou pour réapprovisionnement douteux. Les autorités leur reprochent aussi d'approvisionner des dépôts pharmaceutiques illégaux ou de ravitailler des vendeurs ambulants. 6 autres centrales ont écopé de mise en demeure et sont sommées de se conformer à la réglementation dans les meilleurs délais sous peine de fermeture. Ces sanctions sont prises à l'issue d'inspections menées par le ministère de la Santé. En novembre, la police nigérienne avait saisi plus de 13 tonnes de faux médicaments destinés au marché local. Ils avaient été commandés avec la complicité d'un agent corrompu d'une société officiellement agréée dans la distribution de produits pharmaceutiques. Le marché des faux médicaments est florissant au Niger, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique.
Nanit Talani. Au Liberia, le président George Weah a promulgué hier une loi sur la propriété des terres attendue depuis des années. Les communautés locales pourront dorénavant faire valoir leurs droits en avançant pour preuve des témoignages oraux, des cartes ou encore des contrats signés entre communautés voisines. Un cadastre national de ces terres communautaires va être établi au cours des 2 prochaines années. Seuls 10% des terres d'une communauté pourront être déclarés appartenir au domaine public et donc être l'objet d'une concession à des sociétés privées. En RDC, la commission électorale a publié officiellement hier la liste des 21 candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Cette liste consacre définitivement l'exclusion de l'ancien chef rebelle Jean-Pierre Bemba et de l'opposant en exil Moïse Katumbi. Des élections législatives et provinciales sont également prévues le même jour. Les détails de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le chemin est définitivement balisé en direction des élections, a dit Corneille Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, après avoir rendu public, conformément au calendrier électoral, les listes définitives des candidats présidents de la République et députés nationaux. Cette étape est un nouveau pas de géant qui atteste de la volonté de tenir les élections dans le délai prévu par le calendrier électoral entier poursuivi, se félicitant au passage du travail abattu par la centrale électorale. 21 candidats présidents de la République seront donc sur la ligne de départ de la présidence du 23 décembre prochain, soit 10 de plus qu'en 2011. Parmi eux, les opposants Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, Vital Kamerhe ou encore Freddy Matungulu, Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir, des indépendants comme Noël Tchani, Alain Daniel Shekomba ou Seth Kikuni, l'ancien premier ministre Sami Badibanga porté par les progressistes et l'ancien ministre cadre de la majorité présidentielle Tryphon Kintie Mulumba. Une seule dame parmi les 23, Marie-Josée Ifoku. À la députation nationale, par contre, ils seront 15 355 à concourir pour 500 sièges. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le processus électoral en RDC est entré donc hier dans sa dernière ligne droite avec la publication de cette liste. Néanmoins, le processus connaît des persistantes contestations d'une procédure de vote. La machine à voter et du fichier électoral par l'opposition et la société civile. L'enjeu est une première transition pacifique et des défis politiques et logistiques pour des élections crédibles, transparentes et apaisées inquiètent nombre d'observateurs. La Somalie se dit prête à envoyer des troupes de maintien de la paix au Soudan du Sud, pays en proie à une sanglante guerre civile. Cette annonce fait suite à une proposition du récent sommet de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Les précisions de Michel Joseph.
S'exprimant à Mogadiscio, le ministre adjoint somalien de l'éducation, Abdirahman Jabir, a levé tout équivoque sur la volonté de son pays à voler au secours du Soudan du Sud.
D'aucuns se demandent comment un pays comme la Somalie, qui est en train de sortir d'un conflit et de l'adversité, peut fournir des troupes de maintien de la paix. Le Burundi était en guerre quand il nous a envoyé des soldats et nous a aidés à reconstruire notre pays. Qu'est-ce qui nous empêcherait de contribuer au rétablissement de la paix dans d'autres parties de l'Afrique en conflit ?
L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a proposé que des pays comme la Somalie, l'Ouganda, le Soudan et Djibouti puissent aider à assurer la sécurité au Soudan du Sud. Leurs soldats seraient intégrés au sein de la force de maintien de la paix déjà présente sur place. La mission onusienne au Soudan du Sud compte 17 000 soldats chargés de protéger les civils, de créer un couloir sécurisé pour l'acheminement de l'aide humanitaire et d'enquêter au sujet des violations des droits humains.
Michel Joseph, en Éthiopie, au moins 58 personnes ont été tuées au cours des violences entre communautés ethniques survenues récemment en périphérie de la capitale Addis Abeba, a dit un chercheur d'Amnesty International. Les États-Unis ont salué hier les engagements importants pris par la Corée du Nord lors du sommet intercoréen de Pyongyang. Washington s'est dit prêt à rendre les négociations immédiatement en vue d'une dénucléarisation rapide qui devra s'achever d'ici janvier 2021. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Les États-Unis félicitent le président Moon Jae-in de la Corée du Sud et Kim Jong-un de la Corée du Nord pour l'issue positive de leur sommet à Pyongyang, saluant leur engagement en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a invité son homologue nord-coréen Ri Yong-ho à le rencontrer la semaine prochaine à New York en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Il a applaudi la décision nord-coréenne d'achever le démantèlement déjà annoncé du site de Tongjang-ri dédié aux tests de moteurs de missiles en présence d'inspecteurs américains et internationaux, ainsi que la proposition d'un démantèlement permanent de toutes les installations à Yongbyon en présence d'inspecteurs américains et de ceux de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Kim Jong-un s'est dit prêt à fermer ce complexe nucléaire, mais à condition que Washington prenne des mesures correspondantes, une demande à laquelle Mike Pompeo n'a pas encore réagi.
Herman Ongbo. Kim Jong-un et Moon Jae-in se sont rendus aujourd'hui dans le berceau spirituel de la nation coréenne pour une démonstration d'unité après le nouveau souffle donné par le sommet intercoréen aux négociations entre Pyongyang et Washington. Une délégation israélienne à Moscou aujourd'hui pour présenter les conclusions de son enquête après la qu'avion russe a été accidentellement abattu par son allié syrien lors d'un raid israélien. L'armée israélienne a indiqué hier que cette délégation présentera le rapport de situation de la soirée du lundi au mardi concernant tous ces aspects. Un adolescent palestinien a été tué par un tir israélien lors d'affrontements hier soir à Gaza, a annoncé le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne. Plus de 5 millions d'enfants sont menacés de famine au Yémen, a prévenu hier l'ONG Save the Children au moment où le conflit s'aggrave et que les prix de la nourriture s'envolent. Page d'espoir avant de vous quitter, le manager de Manchester United, José Mourinho, ne pense pas que Paul Pogba peut marquer les buts à chaque instant, mais s'il peut se mettre en position de marquer, cela peut être un plus pour l'équipe. Donc, je suis satisfait de cela. C'était José Mourinho. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre oreille attentive. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.